Une heure à Paris, minuit en temps universel.
Antoine Galen.
À la une, première rencontre entre les États-Unis et la Russie à Riyad. Et ce, presque trois ans jour pour jour après l'invasion russe en Ukraine. On fait le point sur ce qui a été dit en début de journal. Dans ce journal également, l'envoyé spécial du président congolais Félix Tshisekedi s'est rendu au Tchad. La République démocratique du Congo demande une aide militaire sous toutes ses formes, vous l'entendrez. Puis près de 300 personnes du PKK arrêtées en Turquie. Selon les autorités d'Ankara, il s'agirait de membres présumés d'organisations terroristes, alors même que les négociations de paix ont lieu entre Ankara et le PKK. Volodymyr Zelensky n'ira pas en Arabie Saoudite. Le président ukrainien annule son voyage officiel, et cela après les pourparlers entre Russes et Américains ce mardi concernant l'avenir de son pays, en l'absence de délégation ukrainienne. De leur côté, les diplomaties russes et américaines ont dressé de nouvelles lignes de négociation avant une probable rencontre entre Trump et Poutine avant la fin février. Qu'est-ce qui a été dit ou décidé ce mardi? Les précisions de Théo Renaudon.
Voilà ce que l'on sait. La Russie dit oui à une intégration de l'Ukraine à l'UE, mais elle reste sur un non ferme quant à son intégration dans l'OTAN. L'OTAN, toujours bête noire du Kremlin, qui refuse également le déploiement de troupes en Ukraine, même sous un drapeau étoilé de l'Union européenne. Les États-Unis et la Russie ont également parlé économie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est dit ouvert à une coopération économique avec les États-Unis et exprime son vif intérêt pour la levée des sanctions économiques qui visent son pays depuis le début de la guerre. Les États-Unis commencent à mieux comprendre la position russe, je cite, selon Sergueï Lavrov. En face de lui, son homologue, Marco Rubio, s'est dit convaincu à la sortie de la réunion que la Russie voulait s'engager dans un processus de paix. Reste encore à convaincre les Européens et bien sûr encore plus les Ukrainiens, grands absents de cette rencontre.
À Paris, une deuxième réunion se tiendra avec des alliés de l'OTAN. Plusieurs pays qui n'étaient pas présents à la première réunion de lundi seront là, comme le Canada, la Norvège, les Pays-Baltes ou encore la Finlande. Ce sera ce mercredi. Emmanuel Macron va également réunir les forces politiques françaises dans les jours qui viennent pour évoquer la situation en Ukraine. Déclaration du président de la République à la presse régionale. Didier Mazenga, l'envoyé spécial du président congolais Félix Tshisekedi, s'est rendu au Tchad ce mardi. Une visite sur le chemin retour de la 38e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba, avec un message du président Tshisekedi qui demande au président tchadien une aide militaire sous toute forme. Selon une source proche du dossier, alors que le M23 soutenu par le Rwanda ne cesse de progresser dans le sud Kivu, après avoir pris les deux grandes métropoles de l'Est, Goma et Bukavu, à N'Djamena, Victor Moria.
Une aide militaire sous toute forme, voilà la demande adressée par Félix Tshisekedi à son homologue tchadien Mahamat Idriss Déby. Selon une source proche du dossier, l'envoyé spécial du président congolais venu à N'Djamena mardi à la mi-journée portait ce message au chef de l'État tchadien. Le président congolais, dont une avenue porte désormais le nom dans la capitale N'Djamena, est dit très proche des autorités tchadiennes depuis son rôle de facilitateur de la communauté des États d'Afrique centrale dans la résolution pacifique de la crise politique tchadienne. Le 9 février dernier, Mahamat Idriss Déby exprimait ainsi dans un communiqué sa solidarité avec le peuple congolais et son président, tout en appelant au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. En conséquence, et toujours selon cette même source, la demande de soutien militaire est donc examinée par N'Djamena, qui souhaite toutefois respecter les voies légales, qu'elles soient nationales ou internationales, tout en privilégiant l'option du dialogue conformément aux résolutions du sommet conjoint des chefs d'État de l'EAC et de la SADC. Victor Morian, N'Djamena, RFI.
Au Soudan, des attaques des paramilitaires des FSA ont fait plus de 200 morts en 3 jours dans 2 villages de l'État du Nil Blanc dans le sud de Khartoum. C'est ce qu'a indiqué mardi un groupe d'avocats pro-démocratie en précisant que, selon cette même source, parle d'exécution sommaire, d'enlèvement et des pillages généralisés. Le gouvernement soutenu par l'armée fait état d'un bilan 2 fois plus important.
RFI, les voix du monde.
Une opération policière d'envergure en Turquie. Près de 300 personnes ont été arrêtées ces 5 derniers jours. Selon les autorités d'Ankara, il s'agirait de membres présumés d'organisations terroristes, en particulier du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Ces arrestations interviennent au moment où Ankara négocie avec le chef emprisonné du PKK, Abdullah Öcalan, pour qu'il appelle ses combattants à renoncer aux armes. Les précisions d'Anand Loer à Ankara.
Du point de vue du pouvoir turc, il n'y a pas de contradiction entre cette vague d'arrestations dans les milieux pro-kurdes et les négociations en cours pour obtenir la paix après plus de 40 ans de guerre contre le PKK. Dans les deux cas, il s'agit selon les autorités d'atteindre l'objectif, je cite, d'une Turquie sans terrorisme. Il s'agit surtout, sans doute, de ne pas relâcher la pression sur le mouvement politique kurde et de ne pas renvoyer une image de faiblesse à l'opinion publique alors que les négociations se poursuivent. Mais aux yeux du parti pro-kurde légal, le DEM, troisième force politique au Parlement turc, ces arrestations, tout comme la destitution récente de plusieurs de ses maires, sont le signe d'un manque de sincérité du pouvoir dans ses efforts de paix, ou le signe que certaines forces au sein de l'appareil d'État tentent de saboter le processus. Il est clair que la possibilité d'une solution et d'une paix commence à faire perdre le sommeil à certaines personnes, a réagi le parti pro-kurde. Sauf obstacle de dernière minute, Abdullah Öcalan, le fondateur du PKK emprisonné depuis 26 ans, devrait appeler dans les prochains jours son organisation à renoncer aux armes et à s'autodissoudre. Anand Loer, Ankara, RFI.
Au Proche-Orient, le Hamas va rendre 4 corps d'otages à Israël ce jeudi. Une première depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. 6 otages seront libérés de la bande de Gaza ce samedi. RFI avait retrouvé leurs traces à Damas il y a 2 mois. 3 orphelins français d'une même fratrie ont été rapatriés en France ce lundi. Leurs parents, des djihadistes, sont morts en 2019 dans le nord-est syrien. Les enfants qui ont vécu les bombardements, les camps et les rangs sont atterris dans un orphelinat de Damas côté régime. Leur famille en France se battait pour leur rapatriement depuis 5 ans. Aujourd'hui, c'est donc le soulagement pour Marie Dosé, leur avocate, au micro de Muriel Paradon.
Un immense soulagement, hein. 4-5 ans, c'est toute une enfance. Donc ce qu'on sait, c'est que leur maman est décédée dans le camp d'Alol, là où se trouvaient les enfants, qu'ensuite ils ont été emmenés par une autre femme à Damas, donc ils ont été sortis des camps, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu faire partie des opérations de rapatriement organisées par le Quai d'Orsay en 2022 et 2023. Et comme il n'y avait plus évidemment de relations diplomatiques avec Bachar al-Assad, le Quai d'Orsay nous opposait à chaque fois une impossibilité d'organiser ce rapatriement de ces 3 orphelins. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup pesté. Aujourd'hui, ces enfants ont enfin rejoint la France, qu'il était temps pour eux, mais pour leur famille en France aussi, parce que leurs familles respectives ont gardé des relations avec ces enfants. Ces enfants n'arrivent pas en France sans rien connaître de leur histoire. Ils savent que leur famille les attend et ils ont tissé un lien, même virtuel, avec leur famille. Donc il était vraiment temps qu'ils rentrent.
L'avocate Marie Dosé au micro de Muriel Paradon. RFI 19h08 à Washington. Elon Musk a présenté ce lundi la nouvelle version de son intelligence artificielle, Grok 3. Ce robot conversationnel est disponible depuis mardi matin uniquement aux abonnés de la formule X Premium aux États-Unis. Le protégé de Donald Trump a déclaré que Grok 3 est moins bridé, moins politiquement correct, mais plus puissant que les systèmes concurrents. Les précisions de Dominique Dessonnet.
En qualifiant lui-même les capacités de raisonnement de Grok 3 d'effrayantes, Elon Musk annonce avoir augmenté la puissance de son supercalculateur Colossus dédié à l'IA en doublant de 100 000 à 200 000 le nombre de ses puces graphiques conçues par le champion mondial du secteur Nvidia. Cette débauche de puissance mise au service des utilisateurs a été réalisée sans avoir eu besoin de piller les données des internautes, affirme Elon Musk, indiquant que son nouveau programme n'avait utilisé lors de son entraînement que des données dites synthétiques générées artificiellement. Elles ne contiendraient aucune information en particulier provenant d'individus identifiables. Ce sont donc des IA qui permettent aujourd'hui d'entraîner les programmes d'intelligence artificielle, explique le patron de X, avec le risque toutefois que les humains soient à terme exclus des conversations sur les réseaux sociaux quand les agents virtuels de Grok dialogueront à votre place avec des programmes d'intelligence artificielle.
En football, les résultats de la phase retour de la Ligue des Champions. Le Bayern Munich se qualifie pour les huitièmes de finale contre le Celtic Glasgow. Un partout, score final, mais les Allemands l'avaient emporté 2-1 au match aller. Élimination de Monaco après un match nul contre le Benfica Lisbonne, 3-3. Les Portugais avaient gagné 1-0 à l'aller. Autre élimination, celle de l'AC Milan contre Feyenoord 1-1.